bienvenue à notre discussion. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui agite pas mal le secteur de la construction, c'est l'impact des grandes plateformes collaboratives. Et pour en parler, on va s'appuyer sur une série d'études de cas qui concernent l'une des plus connues, Autodesk Construction Cloud, ou ACC pour faire plus court.
Oui, et la vraie question qu'on doit se poser, je pense, au-delà du discours marketing assez léché, c'est de savoir si l'adoption d'un outil aussi unifié représente une véritable révolution, un vrai changement de fond dans les manières de travailler, ou si, au fond, on n'est pas plutôt face à une optimisation, certes très poussée, de processus qui existaient déjà, et dont on aurait peut-être tendance à surévaluer un peu les bénéfices.
C'est exactement ça. Pour ma part, je suis convaincue qu'on parle bien d'un changement de paradigme. C'est un levier de performance qui est vraiment en train de transformer le secteur en profondeur.
Et je vais donc prendre la position inverse. Non pas que ces outils soient inefficaces, hein, loin de là, mais je pense que leur impact est présenté de façon, disons, trop monolithique. Les chiffres de gains, aussi impressionnants soient-ils, cachent souvent des défis d'adoption importants et, surtout, une dépendance qui me semble grandissante envers un seul et même écosystème technologique.
Alors, entrons dans le vif du sujet. Quand je parle de tournant stratégique, ce n'est pas juste une formule. La plateforme ACC, telle qu'on nous l'a décrit, ce n'est pas un logiciel de plus. C'est une solution qui s'attaque au problème fondamental de la construction, la fragmentation de l'information. On a toujours fonctionné en silo, les architectes d'un côté, les ingénieurs de l'autre, et le chantier qui essaie de suivre. Ce que cette plateforme réussit à faire, c'est de connecter toutes les phases, de la première esquisse jusqu'à l'exploitation du bâtiment. Elle crée ce que les documents appellent une source unique d'informations à jour. Et ça, ça change absolument tout. Les bénéfices ne sont pas théoriques. On parle de réduction des coûts, de division des erreurs, d'accélération des délais. Les exemples, comme le groupe IDEC ou Chaban pour le Palais des Congrès de Nîmes, sont très clairs. Ils ne décrivent pas une petite amélioration. Ils parlent d'une nouvelle manière de travailler. On est donc bien face à une évolution décisive.
Je comprends l'attrait de cette vision, vraiment, mais je ne peux pas m'empêcher de la trouver un peu idyllique. Je ne conteste pas la performance de l'outil, mais le mot « révolution », lui, me semble fort. Pour moi, c'est une évolution, oui, très rapide, très puissante, mais ça reste une évolution logique de ce qui était déjà en marche avec le BIM et la numérisation. Les gains sont réels, mais on oublie un peu de parler du contexte. Le document met en avant des entreprises qui sont pour la plupart déjà des championnes du numérique. On cite Chaban, mais il faut quand même rappeler qu'ils ont commencé le BIM avec Revit en 2002. Ce ne sont pas des débutants. La question que ça soulève, c'est qu'en est-il des milliers de PME du BTP, celles qui n'ont pas cette maturité-là? Le document lui-même nous donne des indices. Pour Tetris, la filiale de JLL, on précise bien qu'il a fallu un accompagnement et de la formation.
Plateforme unique, c'est une simplification, non? C'est du marketing. La réalité, c'est un écosystème complexe avec Build, Docs, Tandem, BIM Collaborate Pro. Chaque brique demande un apprentissage. L'intégration est un plus, mais la complexité, elle, reste bien là. On optimise, on fluidifie, mais on ne réinvente pas la roue.
C'est précisément là que nos avis divergent. Vous parlez d'optimisation, je vois une transformation radicale. Prenons l'exemple d'Oro Aéroport. Le document parle de gains de temps spectaculaires. Les inspections qui prenaient 4 jours de travail, papier, de ressaisie, se font maintenant en quelques heures sur une tablette. Au total, sur un seul projet pilote, on parle de plus de 900 heures de travail économisées. Comment peut-on appeler ça une simple optimisation? On ne fait pas la même chose plus vite, on fait les choses de manière complètement différente.
Mais justement, l'exemple d'Oro Airport est parfait pour illustrer mon propos. Passer de 4 jours sur papier à quelques heures sur tablette, c'est le gain, typique de n'importe quel premier passage au numérique. Prenez n'importe quel processus, manuel, chronophage, numérisez-le avec un outil bien conçu et vous obtiendrez des gains de 80 ou 90%. Ce gain n'est pas spécifique à la plateforme ACC. Il est inhérent à la dématérialisation. N'importe quelle autre solution numérique aurait produit des résultats similaires sur ce point précis.
Je ne suis pas d'accord. Vous isolez un bénéfice, mais vous ignorez l'effet d'ensemble. Le gain ne vient pas que de la tablette. Il vient du fait que l'information qui est collectée sur cette tablette est instantanément disponible pour tout le monde, sans ressaisie, sans risque d'erreur. C'est l'intégration qui crée la transformation. Regardez le projet TELT, le tunnel Lyon-Turin, un projet d'une complexité inouïe. Le fait de pouvoir, comme le dit le document, construire avant de construire, en agrégeant toutes les données, ce n'est pas juste du BIM classique. C'est du BIM à une échelle qui permet d'anticiper des problèmes qui auraient coûté des millions. L'économie d'un an sur le chantier de Chaban, ce n'est pas une optimisation, c'est le résultat d'une refonte totale de l'anticipation.
L'idée de construire avant de construire, on est d'accord, c'est l'essence même du BIM depuis 20 ans. La plateforme ne l'invente pas. elle la facilite, elle la met à l'échelle, d'accord? Mais ça me ramène à ma question phare. Ces succès éclatants ne sont-ils pas d'abord le fruit de la maturité et de la structure de ces grands groupes comme Vinci ou EDIS? Ces entreprises ont déjà les processus, la culture, les moyens pour tirer le meilleur d'un outil aussi puissant. Est-ce que la plateforme est la cause du succès ou est-ce qu'elle n'est qu'un amplificateur d'une excellence qui est déjà présente? J'ai un peu l'impression qu'on attribue à l'outil des mérites qui reviennent en grande partie à l'organisation qui l'utilise.
Mais c'est justement ma source de l'outil. Il permet à des organisations moins matures de tendre vers cette excellence. Il démocratise l'accès à des méthodes de pointe. L'exemple de Tetris, qui a dû former 820 collaborateurs, le montre bien. Ils n'étaient pas tous des pionniers du BIM, mais la plateforme a fourni un cadre, une structure pour harmoniser leurs pratiques à travers 13 KI. L'outil n'est pas seulement un amplificateur, il est aussi un catalyseur. Et pour mesurer cet impact, il faut regarder les chiffres, le fameux retour sur investissement.
Alors parlons-en du retour sur l'investissement. C'est souvent l'argument final.
Et pour cause. Quand le document avance des chiffres comme plus de 7100 heures économisées par an avec Autodesk Docs ou 5700 heures avec Autodesk Build, ce ne sont pas des anecdotes. On parle de données basées sur l'analyse de cas clients. Et ce qui est intéressant, c'est le détail. Une réduction de 80% du temps passé à comparer des versions de plans, ou 70% sur le suivi des problèmes sur le chantier. Ce sont des gains sur des tâches sans valeur ajoutée qui minent la productivité de n'importe quel projet. Ces chiffres montrent que la plateforme s'attaque à des problèmes universels et les résout de manière quantifiable.
Là, j'ai vraiment du mal à vous suivre. On ne peut pas prendre ces chiffres pour argent comptant. Le document source qu'on utilise, dans un élan d'honnêteté qu'il faut saluer, contient une clause de non-responsabilité très claire. Je cite « Les gains estimatifs sont fondés sur l'analyse de cas clients. Ils sont sujets à des variations et ne peuvent être garantis. Cette estimation ne doit pas être considérée comme une promesse de performance future. » C'est écrit noir sur blanc. Présenter ces chiffres comme des preuves irréfutables, c'est aller un peu à l'encontre de la mise en garde de l'éditeur lui-même.
Vous savez très bien que c'est une clause légale standard. Toute entreprise qui publie des estimations de ROI se doit d'inclure ce type d'avertissement. Ça ne veut pas dire que les chiffres sont faux, ça veut dire qu'ils ne constituent pas un contrat. Mais quand vous avez une convergence de témoignages du groupe IDC à EDIS, qui tous rapportent des gains massifs, ça devient une tendance de fond, pas juste une estimation marketing. Le disclaimer protège Autodesk légalement, il n'invalide pas la réalité des gains sur le terrain.
Peut-être, mais il invite à la prudence. Et il y a autre chose. Ces estimations sont basées sur des profils d'équipes très spécifiques. 50 utilisateurs pour Docs, 25 pour Build. Est-ce que c'est représentatif de l'ensemble du secteur? Une PME de 15 personnes qui gère 3 petits chantiers verra-t-elle les mêmes bénéfices? J'en doute. Et surtout, il y a un point que le document survole. On nous dit que les heures gagnées sont réallouées à des tâches à plus forte valeur ajoutée. C'est une jolie phrase, mais est-ce que c'est si automatique? Libérer du temps, c'est une chose, l'utiliser de manière productive, c'en est une autre. Est-ce que ça ne crée pas en réalité de nouveaux défis de management, de planification? Le gain de productivité n'est pas juste une soustraction d'heures, c'est une réorganisation qui a un coût, et ce coût, il n'est jamais mentionné.
Je pense que vous sous-estimez la capacité des entreprises à s'adapter. Libérer les équipes des tâches répétitives leur permet justement de se concentrer sur leur cœur de métier. Et tout ça est rendu possible par un élément central, la centralisation. C'est ça le vrai changement de paradigme. La simplification de la gestion IT, l'uniformisation des processus, tout découle de là. Prenez Tetris, encore une fois. Connectez 820 collaborateurs dans 13 pays en structurant les projets par client et non plus par pays, c'est une agilité incroyable. C'était tout simplement impossible avec une mosaïque d'outils différents. La centralisation n'est pas un confort, c'est un levier stratégique qui sécurise les données et décuple la collaboration.
Je vois les choses de manière radicalement différente. Ce que vous appelez un levier stratégique, moi j'appelle ça un risque de dépendance majeure. C'est la stratégie de la cage dorée. On enferme l'ensemble des données, des processus, des collaborateurs dans un seul et même écosystème. C'est confortable au début, mais ça peut devenir un piège. Le document mentionne des passerelles d'intégration, oui, mais la philosophie est claire, c'est une solution tout en un. Sortir de cet écosystème si un jour le besoin s'en fait sentir devient une opération extrêmement complexe et coûteuse.
Mais pourquoi vouloir en sortir si tout fonctionne de manière intégrée? Vous parlez de dépendance, je parle de cohérence. Le cauchemar de n'importe quel projet, c'est l'incompatibilité des formats, la perte de données entre deux logiciels. Ici, ce problème est résolu à la source. Les données circulent sans friction. C'est une garantie de fiabilité, une réduction des erreurs qui sont, à mon sens, inestimables. Ce n'est pas une cage, c'est une autoroute de l'information.
Une autoroute privée avec un seul péage, alors? Et si demain, une start-up développe un outil de planification 4D révolutionnaire, bien plus performant que ce que propose l'écosystème Autodesk, que se passe-t-il? Les entreprises qui ont tout misé sur ACC pourront-elles l'adopter facilement? Ou seront-elles prisonnières, contraintes d'attendre que le géant intègre une fonction similaire, peut-être moins bonne? La cohérence d'aujourd'hui peut devenir la rigidité de demain. On gagne en efficacité à court terme, mais on perd en agilité à long terme. Sans compter que, je le répète, le terme « plateforme unique » est trompeur. C'est une suite de nombreux logiciels, et maîtriser chaque composant est un investissement considérable.
En résumé, je maintiens que les exemples sont trop forts pour être ignorés. Quand on voit la capacité à gérer la complexité d'un projet comme le Lyon-Turin, à intégrer des objectifs de durabilité comme le fait le groupe ID, ou à coordonner des équipes internationales en temps réel comme Chabanne, on ne parle plus d'une simple amélioration. C'est un saut qualitatif. Cette technologie ne fait pas qu'optimiser les méthodes, elle redéfinit les standards de ce qu'il est possible de construire et de gérer.
Et pour ma part, je conclurai en disant que cette plateforme est sans aucun doute un outil de productivité formidable. Mais son succès me semble intimement lié à la taille, la stratégie et surtout à la maturité de l'entreprise qui l'adopte. Les chiffres de ROI, aussi séduisants soient-ils, doivent être lus avec la prudence que le document lui-même nous conseille. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'outil est bon, mais de déterminer si les bénéfices d'un écosystème fermé l'emportent sur le long terme sur les risques de dépendance et de perte d'agilité.
On voit bien que le désaccord persiste. Notre discussion a vraiment mis en évidence cette tension entre, d'un côté, la promesse d'une solution technologique intégrée et de l'autre, les réalités beaucoup plus complexes du déploiement sur le terrain et des choix stratégiques à long terme.
Absolument. Le matériel source nous donne une vision très convaincante des possibilités, mais une lecture attentive révèle aussi toutes les questions que ça soulève. La véritable mesure de l'impact de ces plateformes, on la trouvera sans doute en continuant d'explorer ces cas d'usage et en allant au-delà des chiffres pour comprendre les transformations qu'ils impliquent réellement.